survivor of the Nostromo.
Shivers, shivers.
I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
Just, you know how you tell a story.
You said it. Moi, je crois pas qu'il y ait
de bonnes ou de mauvaises situations.
Permettez. Deux hommes, ça paraît très normal. Trois, ça aurait été trop.
When you're in love, all you need life. Today, all of the ball.
Starting to see pictures, ain't you?
You name it, we shoot it. Be kind, rewind, videos, all the coverage.
Soyez sympa, rembobiné. Une émission de Salima Kettar sur Alternante FM.
Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Alternante FM pour un nouveau numéro de Soyez sympa, rembobiné. Nous parlons ici de rembobiner un film et non de le remonter, de l'effacer ou de le refaire. Le cinéma comme témoin crucial d'une époque, son contexte, son ambiance. L'histoire avec un grand H par le prisme cinématographique. Regarder en face une époque pour ne pas oublier et mieux comprendre d'où nous venons. Le chemin parcouru, ce qui a été détruit, ce qui est en train de revenir, ce qui est oublié, ce qui a été gravé dans le marbre. Revoir, mais ne pas effacer et mieux comprendre notre présent, ce qui nous façonne. Cette émission sera consacrée à toute une décennie, à la fois riche et contrastée, entre l'exigence et le populaire, le grave et la comédie. C'est donc les années 70 que nous allons rembobiner aujourd'hui en nous appuyant sur l'ouvrage « Une histoire du cinéma français » des éditions Leitmotiv, signé Denis Zorniotti, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Denis.
Oui, bonjour Salima et merci pour cette invitation.
Avec plaisir. Alors Denis, depuis les années 30, vous dressez une histoire du cinéma par décennie. Celle des années 70 en représente donc le cinquième tome, qui a été aussi coécrit avec Ulysse Liedo. Vous installez alors une décennie dans sa propre ambiance, son propre contexte. Donc, par exemple, pour reprendre ce que vous avez fait précédemment, les années 30, qui étaient marquées par la crise de 29, le Front populaire ou le souvenir de la Grande Guerre qui était alors encore vif, et donc ce contexte où on avait un cinéma en pleine révolution avec l'arrivée du parlant et qui vivait là un âge d'or, donc entre l'insouciance et la gravité. Quand dans les années 50, on était plutôt dans un cinéma plutôt conformiste, mais qui tendait vers une modernité. Donc là, Denis, on est aux années 70. Et donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de cette série, de cette création de série aux éditions, donc je le répète, Leitmotiv. Comment est-ce que vous l'aviez appréhendé, parce que c'est quand même une sacrée entreprise. Et voilà, comment est-ce que vous construisez chaque tome et quel en était l'enjeu aussi?
Alors, au début, oui, c'est parti d'une aventure collective. Tous les livres sont coécrits d'ailleurs, celui-ci avec Ulysse Liedo et précédemment avec Philippe Palin, qui est décédé en 2020. Donc, c'est pour ça qu'après, voilà, j'ai écrit avec Ulysse Liedo. On était parti dans l'idée de se dire qu'effectivement, le cinéma français était extrêmement riche, évidemment, mais qu'il y avait peut-être une manière d'avoir une relecture là-dessus, en envisageant justement l'aspect historique, l'aspect sociologique aussi. L'idée, là, c'est vraiment le cas pour les années 70, de voir beaucoup, beaucoup de films pour en tirer des, si ce n'est des généralités, en tout cas des lignes de force. Et ça pouvait être fait que par la vision d'un grand nombre de films, y compris des films considérés comme de deuxième zone, mais qui pouvaient éclairer la période. Donc, on a commencé à travailler en 2015 avec Philippe à l'époque. Ulysse participait déjà. Et on a d'abord décidé un peu justement de l'armature des livres, comment ça allait être écrit. Donc puisque c'est année après année, avec chaque fois des films qui sont mis en avant, le film de l'année, un film coup de cœur, des gros plans. Après, il peut y avoir plusieurs coups de cœur si l'année est riche. Puis pour chaque année, un acteur, une actrice, un réalisateur, une réalisatrice et un dossier thématique. Donc on a fixé au début justement la structure, le corpus des films. On a chacun un peu lancé les idées de dossiers qui allaient être lancés. Et après, on est parti, on a commencé à rédiger les livres. Et depuis, finalement, le premier... On a commencé à écrire peut-être en 2016, le premier est sorti en 2020. Et depuis, il en est sorti 5. Donc, on n'a pas chômé. Voilà, mais on a pris du temps, peut-être 6 mois vraiment, pour réfléchir à la structure, à la méthode, à l'orientation et au corpus des films. Après, c'est intéressant, c'est suivant, justement, en voyant plein de films, parfois des thématiques surgissent comme une évidence en se disant, ah ben là, décidément, c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement. Voilà, il y a des choses qui émergent par, justement, la vision d'un corpus important de films.
Alors, les années 70, donc une décennie sacrément dense. Si on devait, comme ça, écouter une ambiance qui pourrait représenter ces années 70, ce serait peut-être celle-là.
Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, tout d'un coup de baguette. Plus de dispensaire, dis donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris?
Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa danseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Écoute, François, écoute.
Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous avec vos dimanches, petit chico à la con! Merde!
Alors, on est évidemment chez Claude Sauté, Denis. Donc là, c'était un extrait de Vincent Paul et les autres. Donc, on a entendu dans
Vincent,
cet extrait.
François, d'ailleurs. C'est François qui parle.
Ah oui, mais à chaque fois, je l'oublie. Et c'est donc François incarné par... donc, il y a Serge Reggiani, on entend Michel Piccoli et vite fait Yves Montand. Donc, Claude Sauté, donc, qui a un peu jalonné ces années 70 avec Les Choses de la vie, César et Rosalie, Max Avefar ailleurs. C'est donc cette ambiance que vous citez en quatrième de couverture.
Que j'ai écrite, voilà.
Que vous avez écrite. De votre ouvrage, qui vient donc de cet inconscient un peu collectif quand on pense à ces années 70, donc qui ne sont pas une mince affaire, on l'a dit, parce qu'elles représentent un peu cet âge d'or, ces films du milieu. Et vous citez aussi Pascal Ferrand. Donc, avant de nous arrêter donc, sur des exemples précis de faits cinématographiques et leur réalité sociale, sociologique, politique, pouvez-vous justement nous décliner cette caractéristique, nous préciser ce qu'est ces films du milieu donc, qui nous permettraient alors de mieux comprendre, mieux nous rendre compte de ce qui a fait le cinéma des années 70?
Oui, j'étais extrêmement marqué, Pascal Ferrand, quand elle a reçu son César du meilleur film pour Les 10 Châtelets, c'était aux alentours, ça doit être en 2000 ou en 2001. Elle a parlé du cinéma français, elle a dit, voilà, elle disait que son film avait bénéficié d'un peu de moyens, et c'était ce qui faisait la force du cinéma français, d'avoir une vision autorisante avec un peu de moyens, et c'était ce qu'elle appelait les films du milieu, en regrettant que, justement, dans les années 60-70, sans forcément d'ailleurs noter les périodes, mais elle a donné des noms de réalisateurs, dans mon souvenir, comme François Truffaut notamment, en expliquant qu'aujourd'hui, dans son époque, et c'est encore le cas aujourd'hui encore plus, on avait souvent des films d'auteurs extrêmement intéressants, mais avec très très peu de moyens, et après des films plus blockbusters, plus grand public, qui pouvaient avoir des qualités intrinsèques aussi également, qui avaient eux beaucoup d'argent. Et dans les années 70, c'est vérifié aussi, on peut même ramener ça aux années 60, il y a les deux existent, il y a ces films du milieu, des films d'auteurs avec des vraies visions, des sujets forts, des vrais enjeux, mais bénéficiant de moyens. Ça se vérifie aussi avec les acteurs. Là, voilà, on est chez Sauté, on a les stars de l'époque. Michel Piccoli, il y a Gérard Depardieu, qui est tout jeune, qui est déjà là. Il y a évidemment Yves Montand, qui trouve, justement, dans ces années, avec Sauté, vraiment son personnage emblématique. Enfin, il trouve ses rôles les plus importants. Piccoli aussi, d'ailleurs. Il y a Le Mépris avant, enfin il y a beaucoup de films, hein. Il y a Belle de jour, mais c'est aussi dans ces années 70 qu'il trouve ça, vraiment son incarnation, là, celle qui nous reste en mémoire. Et donc voilà, ces films du milieu, c'est un cinéma d'une certaine manière que parfois je regrette, car d'un coup, voilà, on a des films de Sauté, on a des films de Truffaut, on a Piala qui tourne aussi avec des stars de l'époque, Jean-Yann et Marlène Jobert.
Ah, justement, ouais, on va y arriver.
Voilà, on va en parler. Nous ne vieillirons pas ensemble. Voilà, qui ont des moyens et qui attirent aussi du monde en salle. C'est une période où, voilà, les films de Sauté, il y a 1-2 millions de personnes qui peuvent aller les voir. C'est rigolo parce que là, moi, je travaille déjà, enfin, sur les années 80, Un mauvais fils, c'est considéré comme un demi-succès, et c'est à plus d'un million de spectateurs. Voilà, il y a cette rencontre entre le public, des moyens qui sont donnés à des auteurs, des sujets forts. Et c'est ce qui fait tout le sel de cette période.
Et concernant le contexte, cette décennie a un climat aussi très particulier, politiquement, socialement, géopolitiquement, et qui s'en ressent dans les films, mais qui les marque aussi également. On est au sortir, donc pour la resituer, on est au sortir de mai 68, qui a insufflé comme ça un vent de liberté dans les mœurs. On est d'abord sous Pompidou. La gauche perd les élections et c'est Giscard qui les emporte en 74 sous le mandat de qui est voté grâce à Simone Veil, l'IVG en 74. Et on est en plein choc pétrolier aussi en 73, qui a pour conséquence donc une grave crise économique. Mais pour en parler avec précision de tout ça, optons pour des exemples qui sont révélateurs de ce contexte particulier éclairé à la lumière d'aujourd'hui. Et j'ai envie de parler d'une actrice, justement, pour parler un peu de ce contexte social. Marlène Jobert, avant d'en parler, on va l'écouter dans un film que vous venez de citer.
Quand on s'est connus et que je savais que j'allais te voir, j'avais le cœur qui battait, j'étais toute tremblante. Si on doit se séparer, je poserai une condition au suivant. Celle de refaire l'amour avec toi. J'aime bien faire l'amour avec toi. J'aime bien faire l'amour avec toi.
Donc là, c'était Marlène Jobert, donc dans On ne vieillira pas ensemble.
Nous ne vieillirons pas ensemble.
Nous ne vieillirons pas ensemble de Piala avec Jean-Yann. Donc les années 70, donc précisez-vous dans votre ouvrage, ont été celles où Marlène Jobert a eu ses plus gros succès. Donc du Passager de la pluie de Clément en 70 à La guerre des polices de Robin Davis en 79. Mais elle a aussi marqué tant... elle a pu cristalliser une nouvelle représentation de la femme au cinéma et dans votre ouvrage qui est raccord avec son époque.
Oui, carrément. On l'oublie, hein, parce qu'effectivement, Marlène Jobert, son dernier film, ça date du début des années 90. Puis bon, maintenant, elle est surtout auteure pour enfants. Enfin voilà, depuis très longtemps d'ailleurs. Mais oui, totalement. Et même sur des films qui sont connus de manière presque, j'allais dire, périphérique, pas forcément par rapport à son personnage. Par exemple, Dernier domicile connu, qui date de 1970, maintenant est très connu pour la musique de François Droubet. On parle souvent de Lino Ventura, mais dans le film, elle interprète une policière, une jeune inspectrice, qui d'abord, d'ailleurs, au début, est juste... on lui donne des affaires de mœurs, pas vraiment intéressante. Elle essaye de elle sert d'appât pour récupérer pour arrêter des satires dans des cinémas. Enfin bon, elle a vraiment un rôle totalement subalterne. Et finalement, après, elle va faire équipe avec Lino Ventura. Et dans l'histoire du cinéma français, c'est la première femme flic. C'est intéressant parce qu'à la fin de la décennie, elle sera dans l'anti-gang, dans la territoriale et dans l'anti-gang pour La guerre des polices. Donc elle représente déjà cette émancipation. Et après, c'est intéressant aussi parce que par exemple, un film qui s'appelle Juliette et Juliette, qui est un film sur le MLF. C'est une comédie avec d'ailleurs Pierre Richard et Anne Girardot. Voilà, elle est là-dedans. Elle marque ses années de MLF. 1975, c'est l'année internationale de la femme. 1974, d'ailleurs, c'est l'arrivée donc de Giscard, vous l'avez dit. Et pour la première fois, il y a un secrétariat national à la condition féminine. C'est François Giroud qui l'incarne, qui sera d'ailleurs moqué dans un film par Delphine Seyrig. Qui montre que voilà, dans une société patriarcale, le secrétariat de la condition féminine, c'est finalement, c'est plus un alibi qu'un véritable poids pour faire changer la société. Elle est sur plein de terrains. Elle est aussi, par exemple, le film que j'aime beaucoup qui s'appelle Pas si méchant que ça, de Claude Goretta, qui est un film policier d'une certaine manière, mais qui montre que c'est la crise. On est en 74-75 et un chef d'entreprise, pour pouvoir payer ses ouvriers, va commencer à faire des hold-up, par exemple. Parce que c'est la crise, voilà, il risque sinon de tous les licencier et il est obligé de passer par là. C'est des thématiques nouvelles et vous l'avez très bien expliqué, on est vraiment dans une période de grand chamboulement, d'utopie un peu juste après 68, au début de la décennie, qui va être d'une certaine manière rattrapée par la crise. Voilà, et à la fin de la décennie, on est plutôt dans des films qui marquent plus une gueule de bois que l'utopie est passée, en fait.
Vous l'avez cité, donc le MLF, donc c'est le mouvement de libération des femmes.
J'ai pas précisé le sigle.
qui est né dans les années 70, donc qui est début de, qui a un début aussi de lutte au pluriel. Et là, j'ai envie de citer aussi, enfin de parler de Simone Signoret par rapport, alors non pas de catégoriser les femmes, hein, mais en tout cas par rapport à la question de la représentation des femmes, qui est là vraiment les années 70. Là, il y a comme une exposition de cette de ce sujet-là, puisque les femmes, la représentation des femmes est un sujet à cette époque. Donc Simone Signoret, donc était une grande star et qui, dans ces années 70, se défend parmi les nouvelles venues. Donc, on l'a cité, Marlène Jobert, Girardot, Annie Girardot, Catherine Deneuve, Huppert, Miu Miu, et qui, elle, va admettre sa vieillesse, qui est un coup de force, en fait, et qui bouscule aussi les codes cinématographiques. Elle va d'ailleurs interpréter des sacrés rôles, hein, La Veuve Couédec, La Chair et l'Orchidée, La Vie devant soi, en 77, donc parce que tourner à l'époque, et qui est aussi un peu encore un sujet aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, hein, tourner pour une femme de 50 ans, ça reste encore une problématique, ça reste en tout cas un sujet.
Oui, tout à fait, 50 ans, et oui, dès 50 ans, j'allais dire, ça peut être une problématique. Mmh. Aux États-Unis, c'est encore pire d'ailleurs. Mmh. Il faut presque, après, il y a une sorte de flou, enfin de vide dans les carrières des comédiennes, et après, on peut les retrouver dans des rôles de nanny, enfin de grand-mère, plus tard. Vous avez c'est très très juste. Simone Signoret, elle assume son âge. Elle était évidemment casque d'or. Elle a été voilà magnifique à la fin des années 40, 50.
Ouais, Dédé d'Anvers,
Manège. Dédé d'Anvers, exactement. C'est vraiment des très grands films. Elle a eu un Oscar à Hollywood pour un film de Jack Layton en 62. Et là, elle assume effectivement. Elle revient avec un autre type de personnage, des personnages assez riches, assez complexes d'ailleurs. Mmh. La Veuve Couder, vous avez dit évidemment le chat.
Voilà, de granier de fer.
Et Madame Rosa jusqu'au bout, enfin la vie devant soi, qui vraiment marque ce nouvel avatar et cette acceptation dans des films, on peut ça qui où elle s'implique aussi, elle s'est toujours impliquée politiquement, ouais. Simone Signoret, donc ça devient vraiment un modèle, une nouvelle vision de la femme, vous avez totalement raison. Je rebondis d'ailleurs sur, c'est pas facile, hein. C'était pas facile pour elle, et même parfois avec Yves Montand qui a sorti ouais. cette phrase terrible, je me suis couché avec casque d'or, je me suis réveillé avec Madame Rosa. Mm. Donc c'est des questions encore d'aujourd'hui, la ouais. place des femmes à partir d'un certain âge, et ça se traduit totalement avec Simone Signoret dans ses années 70. Période faste hein, pour elle, c'est sa meilleure période.
Oui, parce que Signoret, c'est aussi des très grands rôles, de très grands seconds rôles qui ont marqué, hein, comme celui qu'elle tient dans L'aveu de Costa Gavras avec Montand, qui dénonce donc un film qui dénonce les crimes de la dictature stalinienne et qui, avec d'autres films politiques, voire militants de cette décennie, va être l'illustration de l'engagement de ce cinéma des années 70 en donnant, je vous cite Denis, une nouvelle vision de la France qui se regarde en face. Et pour illustrer ce propos, on va écouter un extrait du Chagrin et la pitié.
Où c'est qu'il y a une légende en France qui veut que les paysans soient enrichis pendant la guerre? C'est une vieille. C'est une légende.
Il y en a eu. Il y en a. Si c'était maintenant, moi, il y a des fois, je le dis, non, Dieu, j'aurais mieux fait de faire du marché noir. Aujourd'hui, tu serais riche et tout le monde te dirait bonjour. Que j'ai fait de la résistance, on me prend pour un con.
C'est
bon.
C'est bien fait comme ça.
Et aujourd'hui, vous croyez que le fait d'avoir été résistant, ça vous, est-ce que ça vous donne une espèce de bonne ou mauvaise réputation? Vous avez l'impression par rapport aux autres gens?
Oh ben, je crois que ça nous a toujours donné une mauvaise réputation, parce que du temps de la résistance, on nous appelait des
terroristes,
des terroristes,
des bandits,
tout ce qu'on voulait, mais vous savez, le mot a resté chez certains.
Le Chagrin et la pitié de Marcel Offus, donc un documentaire de 1971 et qui brise le mythe gaullien d'une France unie contre l'envahisseur nazi et qui dénonce la France de Vichy et qui bouleverse alors le regard sur les années d'occupation.
Oui, c'est un moment essentiel et l'extrait est très bien choisi, je trouve, bravo, parce qu'effectivement c'est contre-intuitif, hein, quelque part, d'imaginer voilà, les résistants vus comme des héros. Non, ils empêchaient certains de faire leurs affaires et ils étaient plutôt mal vus. C'est un des témoignages de ce film qui dure 4 heures, qui pour la peine était prévu pour une sortie sur l'ORTF, donc la télévision française, en 1969, qui n'a pas eu lieu. Finalement, le président de l'ORTF a je ne sais plus exactement la phrase, mais en gros, il a dit la France n'a pas besoin qu'on s'accache ses mythes. Enfin, voilà, il y avait l'idée de se dire on a encore besoin d'avoir des mythes fondateurs. Et celui-là, justement, change totalement la donne d'une France, vous l'avez dit, l'idée de l'épée et du glaive. L'épée, c'est De Gaulle à Londres, et le glaive, c'est donc Pétain en France. Voilà, qui les deux auraient, à leur manière, protégé la France, qui était un peu l'idée qui a été véhiculée, et d'une France unie, voilà, dans les films fondateurs comme La bataille du Rail, par exemple, ou Le Père tranquille au sortir de la guerre. Là, à ce moment-là, avec Le chagrin et la pitié, qui finalement va sortir en salle en 71 et qui va avoir un énorme succès, il va y avoir plus de 400 000 personnes qui vont le voir. Pour un documentaire de 4 heures, ça laisse rêveur aujourd'hui. Ça participe à une relecture de la période. Il y a un livre de Robert Paxton aussi qui s'appelle La France de Vichy, qui sort en 72, qui explique, voilà, qui casse complètement le mythe de cette épée, de ce glaive. Et il va y avoir à partir de là beaucoup de relectures sur la période de l'occupation, avec des films comme La Combe Lucien qui fait scandale, qui montre que par hasard, sur quelqu'un qui voulait être résistant peut devenir milicien. Sur juste le fait d'avoir une roue de bicyclette qui crève, et il se retrouve devant la Gestapo dans le sud de la France, la Gestapo française. Et donc lui-même va commettre des exactions sur des juifs. Enfin, le film est extrêmement dur et à l'époque, c'est un scandale absolu. Il va y avoir Monsieur Klein, il va y avoir les guichets du Louvre sur la rave du Veldiv qui montrent déjà... C'est le cas aussi dans Monsieur Klein qui parle de la rave du Veldiv, qui montre que c'est les autorités françaises qui le font et qui quelque part, dépassent le maître allemand, puisqu'ils prennent la décision aussi de déporter les enfants, ce que n'avaient pas voulu faire les Allemands. Enfin, toute cette période est vraiment une période de relecture qui va de pair aussi avec les premiers films vraiment de fiction sur la guerre d'Algérie aussi. En 73, Coup sur coup sort Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier et RAS d'Ivoissé. Les deux d'ailleurs vont avoir des problèmes avec la censure. Le film de Vautier va être limite, on va vouloir détruire les pellicules pour pas que le film existe. Il y a cette volonté de revoir l'histoire, de regarder en face, comme je l'ai dit, qui est extrêmement intéressante. Et voilà, les Français, d'une certaine manière, perdent une certaine forme de naïveté et on s'approche d'une forme de réalisme et de vision beaucoup plus contrastée, beaucoup plus proche de la réalité des faits historiques, même s'ils sont déplaisants.
Alors, vous parliez d'Yves Boissé, donc Yves Boissé qui est également le réalisateur d'un sacré film, Dupont-la-Joie, sorti en 73.
75.
J'avais noté 73.
Non, parce qu'en fait, parce que 73, c'est le moment où l'été 73, il y a des ratonnades, le mont est atroce, qui ont lieu dans le sud de la France, plutôt dans le Var, et il y a des centaines de Nord-Africains qui sont soit blessés, il y a même des gens qui sont tués. Et donc le film s'inspire de ce climat et de cette histoire, mais il n'est tourné qu'en 74, il sortira en 75.
Et ce film donc, qui représente l'archétype du raciste au début des années 70, donc l'archétype donc, qui est incarné par, étonnamment, en fait ça étonne, hein, Jean Carmet, qui incarne donc ce racisme ce racisme ordinaire, banalisé, décomplexé. Et donc c'est les descriptions d'une époque... où il s'agit aussi d'affronter ces démons en les dénonçant.
Oui, carrément. C'est un film, moi, que je trouve passionnant. Et d'ailleurs, le choix de Jean Carmet est très, très bien, parce que dès le début, il y a des réflexions, il y a des choses. Le film se déroule sur 4 jours, en fait. Mmh. Et il y a des réflexions vraiment douteuses. Il y a lui qui a des regards salaces. Enfin bon. Dès le début, il y a quelque chose qui va pas, mais il y a une sorte de bonhomie. Il y a une sorte, ils vont au camping avec ses copains. Bon, on rigole, c'est très franchouillard. Même à l'époque, ça devait quand même paraître très franchouillard. Aujourd'hui, on voit ça avec un regard en se disant, mon Dieu. Mmh. Et finalement, un viol et un meurtre d'une jeune femme qui est la fille d'un ami de camping. Et la dénonciation, le bouc émissaire, c'est des travailleurs immigrés qui travaillent là. C'est un film extrêmement intéressant parce qu'il pointe aussi la société du tourisme de masse, les campings, et une société qui, à la base, justement, les Nord-Africains, la population immigrée, ils sont à travailler sur des chantiers, eux, ils sont au camping. Et c'est juste sur la foi, justement, c'est comme si c'était dans des territoires complètement séparés. Mmh. Et là, sur la foi, justement, d'un chantier qui est juste à côté du camping, les deux se fréquentent. notamment dans des scènes de dancing où ils font la fête, et on sent à ce moment-là déjà le racisme, de se dire qu'est-ce qu'ils font là, etc., etc. Et ça va conduire à la catastrophe. Et c'est un film donc qui très courageux pour l'époque, puisqu'effectivement ça se base sur des faits d'actualité. Ça a été tourné d'ailleurs dans le Var, dans la région même où avaient lieu ces exactions, ces violences, ces ratonnades 2 ans plus tôt. Et le film a eu maille à partir aussi avec les autorités. Enfin, Boissé est jalonné pour cette période années 70 de films qui ont des problèmes, qui sont interdits. Il y a des bips dans Le Juge Fayard, dit le shérif, car elle met en cause le service d'ordre de l'UDR, enfin le parti gaulliste de l'époque. Enfin bon, c'est une période aussi de dénonciation. Il y a un dossier qui s'appelle Tous pourris, oui. où il y a une attaque un peu de toutes les élites, voilà, parce qu'il y a eu des affaires qui ont marqué dans les années 60, l'affaire Ben Barka, l'affaire Markovic, des affaires qui quelque part montraient les liaisons dangereuses entre le pouvoir, les autorités, les dictatures, dans le cas de l'affaire Ben Barka, et voilà. Et les Français perdent leur innocence à ce moment-là, et ça se traduit vraiment dans le cinéma.
On prend une petite respiration avec Ennio Morricone.
Ah ben, formidable compositeur.
Sur la ville, donc avec Jean-Paul Belmondo, un film donc dont la musique est signée Ennio Morricone. Nous sommes en compagnie de Denis Zagnotti sur Alternante FM pour parler du cinéma des années 70 d'après son ouvrage « Une histoire du cinéma français ». Alors, on l'a dit donc auparavant, Denis, voilà le regard qui est complètement durant le regard de spectateur qui est complètement bousculé face à l'écran de cinéma, ces années 70 où tout s'échauffe, la pensée, les corps, la sexualité, la bourgeoisie, il y a cette envie de tout faire éclater, de s'exprimer haut et fort dans la société d'alors. C'est une nouvelle génération qui arrive donc et qui va traduire tout ça. Donc c'est des noms comme ça, Bertrand Tavernier, Agnès Varda, Bertrand Blier, Adjani Huppert, Patrick Devers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau souffle?
Oui, dans le livre aussi, il y a un collaborateur qui écrit quelques textes qui s'appelle Daniel Patte, hein, qui dit souvent que c'est la nouvelle vague, hein, enfin d'une certaine manière, 74. Mmh. 74, oui, il y a l'arrivée 74-75, hein, c'est mais de nouveaux réalisateurs, de nouveaux comédiens qui explosent. Bon, Patrick Devers, il avait déjà fait des fictions pour l'ORTF quand il était enfant. Voilà, mais Gérard Depardieu, bon, malheureusement, qui dans l'actualité revient et bon, il y a beaucoup de choses à en dire évidemment. Et effectivement, bon, Miu Miu, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert. Enfin, quand on y pense, c'est des gens qui vont faire le cinéma français de jusqu'à aujourd'hui. Et plein de nouveaux réalisateurs, Bertrand Tavernier, Bertrand Blier, il y a Jean-Charles Takela qui fait Cousin-Cousine, qui est un film formidable en 75, Alain Corneau, enfin ils sont très très nombreux. Bon, Jacques Doyon, je cite aussi des gens un peu problématiques, hein, mais voilà, il fait Les Doigts dans la tête en 74, c'est son véritable premier film, il a fait L'An 01 avant, avec Gégé, un dessinateur de Charlie Hebdo, un film très utopique d'ailleurs, très très années 70, post-68 art. Voilà, il y a tous ces nouveaux réalisateurs qui arrivent, qui vont changer, et, voilà, qui vont donner un nouveau souffle au cinéma. C'est une période faste là-dessus, voilà, qui va vraiment marquer encore le cinéma d'aujourd'hui d'une certaine manière. Il tourne encore, mais malheureusement pour certains, j'allais dire.
Et justement, donc, je parlais de cette liberté de disposer de son corps, donc, qui en passe par la liberté sexuelle, exprimée donc, dans le cinéma de cette époque. Et c'est d'ailleurs lors de cette décennie, en 1974, que sort Emmanuel de Just Jinking. Est-ce que vous pouvez nous parler comme ça de cet allant sexuel qui imprègne le cinéma?
Oui, alors. Giscard d'Estaing, avec voilà, il y a plein de choses à en dire, mais en tout cas, il y a une volonté de libération des mœurs et de liberté. Donc, il supprime par exemple le ministère de l'information qui régentait la télévision et jusque-là, le sommaire du JT était donné au ministre de l'information qui donnait son aval ou pas. Donc ça, c'est supprimé. Et on supprime aussi une forme de censure en 74 qui va d'ailleurs avoir l'effet de Emmanuel sort à ce moment-là, il va y avoir 9 millions de personnes qui vont aller le voir, parce que avant il ne serait pas sorti au cinéma, et donc il sort à ce moment-là. C'est amusant parce que dans cette volonté de libération, il va y avoir énormément de films érotiques et pornographiques qui sortent entre 74 et 75. En 75, un quart des films qui sortent au cinéma sont à classer érotiques ou pornographiques, et il va falloir quand même mettre de l'ordre dans tout ça. Et à partir de 76, justement, les films pornographiques n'auront plus accès à des aides de l'État, du CNC, seront dans des circuits spécialisés avec interdiction d'affiches. Voilà. Il y a une sorte de liberté. À un moment, on la ferme un petit peu parce qu'on se dit qu'on est allé trop loin. Voilà. Je parle de ce cinéma-là, mais ça se voit évidemment dans le cinéma en général classique. Il y a cette volonté, effectivement, de renverser la table. Et alors, il y a des films extrêmement scandaleux. 73, il y a La Grande Bouffe qui passe à Cannes et qui est un scandale énorme. Voilà. Quatre quinquagénaires qui décident de se suicider par absorption d'aliments,
bouffant,
et qui, au-delà de le côté un peu surréaliste et complètement nihiliste, c'est une critique très très forte de la société de consommation, très très forte. Il y a effectivement l'idée, ça se voit d'ailleurs même dans le cinéma de Claude Sauté, on repense le couple aussi. Ça se voit dans César et Rosalie, où finalement, voilà, il y a deux visions de la masculinité d'une certaine manière. Yves Montand, un peu traditionnel, un peu hâbleur, comme ça, un peu machiste, et Samy Frey, plus dans une forme de délicatesse, plus, voilà, on dirait plus déconstruite, on dirait aujourd'hui. Et elle qui est entre les deux, et à la fin du film, dans l'absolu, elle ne choisit pas, et ils vont essayer de vivre à trois. Le film Romy s'arrête
Schneider.
Comme ça. Romy Schneider, exactement. Il y a Une histoire simple aussi. Qui est un film majeur, puisque quelque part, Vincent, François, Paul et les autres, c'est un peu les hommes, et Une histoire simple, c'est plutôt les femmes, c'est recentré sur Romy Schneider, et au début du film, donc elle avorte, hein. Après elle a plusieurs histoires, et elle décide à la fin de faire un bébé toute seule. Donc il y a vraiment l'idée de recomposition du couple, de la famille. Il y a plein de films comme ça qui traduisent cette volonté de sortir d'un modèle classique, bourgeois, entre guillemets. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a Colin Serrault, Pourquoi pas, où ils vivent à trois. Et d'ailleurs, même les deux hommes ont à un moment une relation homosexuelle entre eux. Il y a un film de Jacques Doyon aussi. Jacques Doyon, bip bip. La femme qui pleure, où effectivement, c'est Dominique Lafin qui joue dans le film. Et elle, voilà, ils essaient de vivre à trois. Mais quelque part, la difficulté d'aimer, d'être aimé, d'être respecté, finalement, même si on est post-68ard, ben, la difficulté d'aimer, elle est toujours là aussi. Il y a un côté, le film, plutôt en fin de décennie, il est aussi à se dire, voilà, tout n'est pas simple. La libération n'a pas tout résolu et les problèmes de cœur, voilà, c'est aussi simple, c'est pas si simple.
Et il y a comme une désillusion complète qui s'installe. Et La maman et la putain est un film qui est très parlant de ça. Vous parliez du couple qui se défait, qui a du mal à exister, à trois, etc. Donc La maman et la putain incarnent notamment ça. Donc c'est Jean Eustache qui signe ce film, sorti en 73, qui a fait un scandale à sa sortie. Ce film aussi qui est considéré encore aujourd'hui comme le diamant noir du cinéma français. C'est donc l'histoire d'un jeune homme oisif qui forme ménage à trois avec deux autres femmes. On écoute un extrait et on en reparle.
Chaque matin, chaque jour que nous ne passons pas ensemble est un jour que nous perdons. C'est un massacre, c'est un crime.
J'ai envie de rebaiser avec vous. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type?
Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder.
Je suis affreuse.
Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien.
Foutez-moi le camp! Oust! Je liquide!
Mon cœur est une fleur d'automne sans ça.
Comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste.
Je vous le donne.
Donc La maman et la putain de Jean Eustache, donc un film qui a fait un bordel à sa sortie et qui est disparu et qui a réapparu il y a peine
problèmes,
2 ans.
Voilà, il y a eu des problèmes d'ayant droit, donc le film est finalement seulement ressorti. D'ailleurs, il était, je crois, diffusé à Cannes très officiellement. Il y a une standing ovation pour Jean-Pierre Léo. C'est un film, oui, je parlais de La femme qui pleure qui arrive presque, on va dire, en fin de décennie. La maman de la putain, c'est 6 ans plus tôt. Ça marque effectivement peut-être le début de la fin, on va dire, d'une forme d'illusion. C'est un film extrêmement bavard, extrêmement grossier d'une certaine manière. Et c'est ce qui a aussi surpris à l'époque, avec un langage extrêmement cru, extrêmement direct, dit par des femmes également. Donc c'est un film que je trouve majeur, évidemment, qui est presque, je trouve, miraculeux, parce que le film dure 4 heures, ça parle énormément. Et à un moment, on est pris par ce rythme, par ces mots qui viennent comme ça, on est submergé. Voilà. Donc c'est une vraie expérience. Je conseille à tout le monde, évidemment, de le voir. Bon, il faut passer 4 heures, hein, mais
ça passe crème.
Mais carrément. Et c'est ça qui est incroyable. On est effectivement dans l'idée de désillusion aussi du couple, de difficulté. Ça marque vraiment une époque.
C'est donc ce moment-là, un moment, enfin les 70s, un moment où le cinéma découvre alors sa modernité, on l'a entendu là dans La maman et la putain, en même temps que de prendre une certaine liberté, mais qui voit, donc on vient de le dire, une certaine désillusion qui est également représentée sur les écrans français. Donc rappelons-le, il y a une crise économique, la société n'a pas connu la révolution qu'elle attendait. On est post-68, on commence aussi à penser à l'écologie. Mais tout ça, ce qui est assez génial, je dirais, c'est que le cinéma va le traduire très spontanément.
Oui, mais carrément. La crise, oui, donc 73, il faut se remettre dans le contexte. Hein, donc où il y a à la fois l'inflation et le chômage. Le chômage, il y avait quasiment pas de chômeurs. On était en plein emploi jusque-là. Et donc c'est un vrai choc. Ça se traduit d'ailleurs chez Sauté dans Mado. Au début du film, il y a un cadre qui perd son emploi et qui se suicide. C'est l'idée de se dire que ça peut toucher tout le monde. Donc ça se traduit tout de suite. C'est l'écologie aussi. C'est vrai que René Dumont se présente en 74 et d'ailleurs à l'époque il boit un verre d'eau et dit voilà, je fais ce geste, mais dans des prochaines décennies l'eau va être précieuse, et on le vit aujourd'hui. Donc là c'était dès 74. Et c'est amusant de voir que sur, par exemple, une comédie. Moi, j'aime bien parfois prendre justement des films extrêmement populaires et me dire, mais qu'est-ce que ça traduit? Et la zizanie, donc Louis de Funès, Annie Girardot, eh ben, il y a déjà cette conception écologique. Il y a l'idée, voilà, il y a l'industriel d'un côté et l'utopie. C'est Annie Girardot qui parle d'écologie. Le film se termine d'ailleurs à la campagne avec l'idée de commerce, enfin d'agriculture raisonnée, dans le local, sans pesticides. On est à l'époque, on est en 78, et dans un film très grand public où il va y avoir 3 millions de personnes, je dis ça au hasard, mais bon, en tout cas c'est un énorme succès, qui vont voir ce film là donc tout de suite ça rentre dans les implications, dans les sujets des films. C'est ça l'intérêt. Bah, après, c'est vraiment l'objet même du travail que j'effectue avec Philippe et maintenant avec Ulysse, c'est de se dire voilà, qu'est-ce que ça représente de la société, et tout de suite ces passerelles qui sont évidentes dans des films qui sortent juste quelques années plus tard. Ça, je reviens d'ailleurs sur la guerre d'Algérie, là pour la peine c'est le contraire. Il y a eu l'Insoumis en 64 d'Alain Cavalier qui parlait déjà de guerre d'Algérie.
Oui, Alain Cavalier.
Mais le film a été interdit. Au bout d'une semaine, il n'était plus à l'écran. Voilà. Là, il a fallu du temps. Parfois, justement, sur certains sujets, le laps de temps qui est plus important traduit un malaise encore plus grand, mais qui saute donc dans les années 70. Mmh. Sur des sujets comme la crise, là, ça se ressent tout de suite dans toutes les années qui vont suivre. Il y a toujours ça, des nouvelles problématiques, des personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Violette et François, par exemple, de Jacques Rouffio avec Isabelle Adjani et Jacques Dutronc, voilà, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, c'est la galère. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, précédemment.
Alors, vous parliez de comédie tout à l'heure, si on revient sur la comédie. On va écouter un extrait d'une comédie qui a cartonné à l'époque, et puis on en reparle tout de suite après, Denis.
Oh, c'est sendu zombie!
Quoi?
Oh, c'est vraiment grâce à ça. C'est vraiment bon, qu'est-ce que... Quoi? C'est un énorme costume!
Quoi? Mais quoi?
Mais
où?
T'as pas vu?
Quoi, c'est pas vu?
Quoi?
T'as pas vu?
Non!
Ça va, voilà.
Le gendarme et les extraterrestres de Jean Giraud.
Jean Giraud, oui.
Donc c'est une période, donc on comprend hein, les années 70, fort en contraste, puisque dans ce même temps, donc les sujets que vous évoquiez juste à l'instant, c'est aussi pendant ce temps-là l'avènement de la comédie française, un dossier qui clôt d'ailleurs votre ouvrage, avec l'année 79. C'est-à-dire que sur 15 des plus grands succès de la décennie, 10 sont des comédies. Et donc, vous l'aviez dit, la comédie qui est caractérisée par de la satire sur le monde industriel, sur le monde de la radio, etc.
Oui, alors les années 60 aussi, hein. Le Corneau, c'est le Corneau 64, oui. C'est un énorme succès. Voilà, après, il y a la Grande Vadrouille. D'ailleurs, le texte qu'on a écrit, c'était l'idée de se dire que c'est un peu la prolongation de certaines recettes qui ont marché avant. Donc là, voilà, Louis de Funès, évidemment, reste une grande star. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue aussi dans des films qui, justement, embrassent les thématiques de l'époque. Donc bon, il y a Rabbi Jacob, évidemment, sur le conflit israélo-palestinien dès 73, hein, puisque donc il y a la guerre du Kippour en 73. Et le film sort à ce moment-là. L'aile ou la cuisse, ça parle de malbouffe déjà. La zizanie, on a parlé d'écologie. Après, il y a une nouvelle forme d'humour, justement, ou en tout cas la satire. Vous l'avez évoqué rapidement. Il y a Jean-Yann qui va se moquer de beaucoup de sujets, de l'entreprise, des médias.
Dans Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil.
Là, c'est la radio.
Ouais.
Voilà. Il y a aussi même des personnes qui ont l'air inoffensives, mais en fait, ils ne le sont pas tant que ça. C'est Pierre Richard. Il fait le district, c'est une critique de la publicité. Les Malheurs d'Alfred, c'est une critique de la télévision, justement, qui commence avec des jeux complètement débiles, qui commencent à la volonté un peu de divertir et d'abêtir, entre guillemets, les foules. Je sais rien, mais je dirais tout, c'est sur le commerce des armes. Lui-même, d'ailleurs, après, va plutôt abandonner, on va dire, cet axe dans les années 80, mais de sujets politiques. Mais à l'époque, il est d'ailleurs, voilà, il n'a pas peur d'embrasser ces sujets forts de société politique dans des comédies qui, par ailleurs, sont burlesques et très drôles. Et d'ailleurs, petite aparté rigolote, c'est que grâce à ses films, il est très connu dans les pays de l'Est. Parce que justement, on les diffusait justement en République tchèque, on pouvait diffuser ces films parce que justement, c'était pour eux, dans leur propagande, on va dire, communiste, c'était l'idée, vous voyez, ce qui se passe à l'Ouest. Hein, voilà. Donc, il était instrumentalisé d'une certaine manière et ça fait que, point positif, il est très connu dans les pays d'Europe de l'Est. Hein. Mais il y a beaucoup de types de comédies et aussi des francs-tireurs. Je pense à Pascal Thomas, par exemple. Je pense à Jacques Rosier, qui propose des films assez originaux, des films qui quelque part, n'appartiennent à aucune chapelle, hein, et qui sont des vraies comédies d'auteur. Donc, eux, ils apparaissent aussi à ce moment-là, et ça permet d'enrichir notre palette de comédies françaises. Mais les comédies françaises, oui, 10 sur 15, et pas que du bon aussi. Les Charlots sont les stars de l'année, de la décennie. voilà. Mais après, c'est intéressant, parce que les Charlots, le Grand Bazar, c'est aussi une critique des hypermarchés au profit des petits... Ça pointe la fin des commerces de proximité, des petites épiceries, au profit des hypermarchés. Mmh. Même dans des films comme ça, ça traduit l'époque et l'évolution d'une France qui évolue à grands pas dans 60-70. Voilà, ça évolue énormément.
Alors, engagé, sensible, expérimental, post-68 art, révolté, militant, sexuel, starification, la masculinité qui s'interroge, le désenchantement, donc 70, donc peut-être la décennie la plus marquante, d'autant plus à l'orée de 2024.
Oui, et c'est très intéressant justement c'était intéressant de voir le cinéma des années 70 dans les années 70. C'est toujours intéressant de le voir avec notre regard. C'est intéressant de voir les films de Bertrand Blier. Donc là, on a beaucoup reparlé d'une scène des valseuses. Mais après, il y a d'autres films. Par exemple, le film Calmos, qui est vraiment un film presque réactionnaire, en tout cas dans sa vision. Ça naît de la peur justement que les femmes prennent le pouvoir, et on arrive à une sorte de dystopie où justement les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont plus utilisés que comme des géniteurs. Enfin, on leur donne des drogues pour pouvoir à la chaîne avoir des rapports sexuels avec des femmes. Enfin, le film est complètement hallucinant. D'ailleurs, je pense qu'il repasse plus vraiment à la télé non plus, parce que c'est extrêmement, ça peut être extrêmement dérangeant. Les films de Joël Seria aussi qui repassent, et on peut aimer le petit côté franchouillard, mais bon, le côté extrêmement grivois avec une place des femmes qui est quand même plutôt dans des rôles de potiche, pour dire, voilà, on est dans cette période de lutte, hein, et voilà, le voir aujourd'hui, c'est intéressant. C'est intéressant aussi sur l'aspect politique. On a parlé de la vision de l'occupation qui peut encore être dans des débats pour des personnes plutôt branchées à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et quand on voit les films des années 70, on se dit que historiquement, c'est bon. Le fait est sûr et certain. Voilà, l'épée et le bouclier, ça n'a jamais existé. On a vraiment des films extrêmement précis là-dessus. Je réponds en partie à votre question, peut-être pas suffisamment.
Il y a des choses... voilà, qui se répondent, qui reviennent de manière inquiétante, des choses qu'on pensait régler, mais qui sont pas réglées. Enfin, c'est un cinéma qui continue de nous interroger au présent.
Carrément.
En fait.
C'est intéressant, oui. Et je disais, en voyant plein de films, parfois, justement, il y a des choses qui émergent et des surprises. Là, sur les années 70, par exemple, j'ai vu une quinzaine de films où il y avait des scènes de viol. Donc, il y a L'amour violé, notamment de Yannick Bellon, qui est c'est une femme, elle est morte d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, elle avait plus de 90 ans. C'est un film qui a fait bouger la loi aussi, parce que d'un coup, voilà, c'est une femme qui est violée au début du film. D'ailleurs, parmi les agresseurs, les assassins, j'allais dire presque, il y a Daniel Auteuil. Et voilà, elle a du mal à faire revendiquer sa position de victime auprès des autorités, et ça fait un peu bouger la loi. Dans les années 80, où j'en suis là, par exemple, je me suis aperçu, j'ai vu une quinzaine de films où il y a des jeunes filles, des adolescentes, parfois de 12 à 15 ans, qui ont finalement des histoires d'amour avec des hommes de 30 à 50 ans. Finalement, sur le nombre, il y en a une quinzaine. D'ailleurs, avec des films parfois réalisés aussi par des femmes. Et où, à part un film de Catherine Breillat, 36 fillettes, où la question du consentement ne rentre jamais dans la problématique des films. Et c'est plutôt l'idée que les hommes sont plutôt victimes. Parce que les petites Lolita, les petites nymphettes, elles ont su les séduire, et c'est eux finalement qui en payent le prix. Donc c'est extrêmement dérangeant avec notre regard de 2024. Ouais. Et on a toujours l'idée de se dire, mais comment c'est passé à l'époque ? Est-ce que, voilà. Donc voilà, c'est l'intérêt aussi, et c'est pour ça que cette plongée, pour moi, à titre ne serait-ce que personnel, et j'espère justement... Le transmettre au lecteur est passionnante.
On l'a compris, là, vous vous attaquez à la décennie 70. Jusqu'où est-ce que...
90. 80, et je m'arrêterai...
À la décennie 80,
Oui, on s'y perd avec toutes ces années. Là, l'idée, dès le début, c'était... On avait commencé sur les années 30... Parce que il y avait l'arrivée du parlant, mais parce qu'aussi on avait compris que beaucoup des films du muet ont disparu et que ça risquait, notre livre risquait d'être un peu bancal, et pour certains films, c'était des commentaires de films, et pas vraiment la vision de voir les films et d'en tirer justement, avec notre regard d'aujourd'hui, des conclusions, j'allais dire, en tout cas une analyse. Et on s'était dit, voilà, jusqu'aux années 90, jusque là, on reste sur le 20e siècle, en imaginant que les années 2000, 2010, 2020 aujourd'hui, enfin, qui sont en cours, le recul n'était peut-être pas suffisamment là pour avoir une vision justement intéressante et pertinente des décennies. Là, j'écris sur les années 90. En ce moment, je suis dessus, puisque les années 80 sont terminées. Le livre sortira, je pense, fin 2024, début 2025. Mm-hmm. Le temps de la fabrication, tout ça, l'iconographie, ça prend du temps. Mais l'arrêt sera là, en tout cas. Et peut-être, qui sait, dans 10 ans, l'envie me prendra de faire les années 2000.
Ah bah, oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas.
On va conclure cette émission avec une petite actu ciné, Vincent. Depuis le 22 mars se déroule le Festival du cinéma espagnol à Nantes. Jusqu'au 1er avril, vous pourrez ainsi découvrir des fictions, des documentaires, films d'animation, artistes espagnols au 14 Arts, à Cosmopolis et au Théâtre Gralin. Invité d'honneur de cette 33e édition, c'est la première fois que le festival accueillera le cinéaste Victor Hérissé, qui donnera une masterclass animée par Alain Bergala demain, jeudi 28 mars à 21h sur la scène du Théâtre Gralin. À noter aussi ce samedi 30, une rencontre avec la réalisatrice Arantxa Echevarria et l'actrice Carolina Juste à Cosmopolis à 19h30. L'entrée sera libre. La cérémonie de clôture se déroulera lundi prochain, 1er avril donc, au Théâtre Gralin avec son palmarès et sera suivie de la projection Bajo Terapia en présence de son réalisateur Gerardo Herrero. Toutes les informations, toute la programmation, vous pourrez la retrouver sur le site du festival. Se déroule également actuellement le forum Visage, qui programme des films documentaires d'intervention sociale et dont le thème cette année est le corps dans tous ses états. C'est jusqu'au 28 mars au cinéma Saint-Paul de Rezé et c'est 3 euros la séance. Toute la programmation sur forumvisage.org. Voilà, on arrive au bout de l'émission. Merci beaucoup Denis Zorniotti.
Merci beaucoup Salima Kettar de cette invitation.
Donc d'être venu nous parler d'une histoire du cinéma français pour la décennie 70 parue aux éditions Leitmotiv. C'est Vincent qui a assuré la technique de cette émission, une émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast sur le site d'Alternante FM. Quant à moi, je vous dis bye bye et une prochaine bonne soirée, bonne nuit.